Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur les grands concepts de la psychanalyse, que vous ne compreniez rien à vos cours de L1 de psycho, que vous soyez simplement curieux ou en pleine thérapie. On a décidé d'essayer de vous éclairer avec Mardi Noir, psychologue et psychanalyste. Salut Mardi Noir.
Salut Nina.
Aujourd'hui, on achève notre mini-série de 3 épisodes sur le moi, le ça et le surmoi, ce triptyque de Freud pour penser la psyché humaine. On a déjà vu le moi entre conscience et inconscience, on a vu le ça entièrement inconscient, et aujourd'hui, celui qu'on attendait tous, roulement de tambour, le surmoi. Je dis qu'on l'attendait mardi parce que le surmoi, on en fait parfois une utilisation dans le langage courant. En tout cas, moi, je l'utilise. Mais Freud, qu'est-ce qu'il entend par surmoi ?
En effet, Nina, il nous reste à évoquer le surmoi. On a vu que le moi était une partie modifiée du ça sous l'influence du monde extérieur. En d'autres termes, le chaos rencontre la civilisation et le moi doit se débrouiller entre ces deux pôles en essayant de ne pas perdre la face. Et tout ça ne se fait pas sans l'aide, ou devrais-je dire, la contrainte, voire la tyrannie du surmoi. Communément, le surmoi, c'est ce qu'on appelle de façon populaire notre gendarme interne. Et déjà là, on peut se demander, mais à quelle sorte de gendarme ou de policier j'ai affaire ? Est-ce que c'est un good cop ou un bad cop ? Est-ce que c'est un ripou ? Est-ce qu'il fait des bavures ? Ou est-ce que c'est un flic intègre, droit dans ses bottes, qui travaille, allez, 40 heures par semaine, mais nous laisse respirer le reste du temps ? Il est là pour faire respecter la loi, tout en faisant des petites blagues. Bon, ce serait bien, mais c'est pas toujours le cas.
Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau.
Le gendarme, c'est l'ordre, et l'ordre, c'est toujours impopulaire, regarde à vous.
Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre.
Regarde à vous, regarde à vous.
Je le confesse, mardi, il m'est déjà arrivé de dire « cette personne n'a pas de surmoi ». Et ce que je voulais dire par là, c'est « cette personne a oublié les codes sociaux, manque de filtre, cette personne n'a pas honte ». Un truc comme ça.
Oui, le surmoi, dans la conception freudienne, c'est quelque chose qui se forme avec les premiers interdits parentaux, souvent à des moments sacrément pulsionnels. Genre, j'ai 3 ans, je me touche la quéquette devant tout le monde, et là, un adulte va me dire « oh bah, ça se fait pas ça, dis donc, tu peux le faire, mais en cachette, dans ton lit le soir, quoi ». Et donc là, pour l'enfant, s'imprime l'idée que ses parents sont au courant de ce genre de choses, ils sont au courant qu'on se touche la quéquette, mais qu'on le fait dans le lit le soir. Allez, je continue avec notre enfant fictif. Mettons qu'il est en train d'écraser des fourmis et de leur arracher des pattes en prenant un plaisir proche du sadisme, la bave aux lèvres. Il est en pleine dissection et hop, on lui dit que c'est pas gentil, que c'est un être vivant, qu'il faut respecter la nature. Et est-ce qu'il aimerait, cet enfant fictif, qu'on lui arrache les bras et les jambes lentement pour voir ce que ça fait, hein ? Non, il aimerait pas, mais maintenant, voilà, il va y penser. Ou encore, le gamin s'empiffre de sucre et on le met en garde. On lui dit qu'il va être malade alors qu'il est en train de kiffer à outrance. Bref, tout ça pour dire que l'interdit, c'est hyper bien. Moi, je valide. Je préfère vivre dans un monde où la majorité des gens ne se découpent pas les uns les autres et où si quelqu'un se masturbe dans le métro, eh bien, on va quand même le regarder de travers parce que sinon, ce serait le bordel et l'angoisse tout le temps. Mais vous voyez bien, Nina, que l'interdit se pose tout de même sur quelque chose que j'étais en train de faire. Me toucher, tuer des fourmis, manger une quinzaine de beignets. Et cet interdit me marque directement. Il se charge aussi d'une forme de jouissance. Quand ado, je me masturbe à l'abri des regards, j'ai tout de même l'idée que ce regard existe, ne serait-ce que le mien. Du regard parental d'où découle l'interdit à un moment, dans l'enfance où je n'avais aucune conscience qu'on pouvait me voir, on en arrive à un regard et une voix intériorisée, et c'est ça le surmoi.
Et mardi, est-ce que le surmoi, il nous parle un peu comme un petit diable ou un petit ange sur notre épaule ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le surmoi, c'est un ordre. Il donne un ordre. Alors oui, on a souvent la fausse idée du petit ange et du petit démon. Comme quoi l'ange, ce serait le surmoi, et le démon, ce serait le ça. Il y a pas mal de scènes comme ça, justement, dans Tintin. Le chien de Tintin, Milou, est souvent confronté à ce dilemme. Par exemple, il voit un os et veut le manger, alors que l'os est à un endroit dangereux. Il s'apprête à y aller et il est freiné par l'apparition de 2 mini-Milou sous la forme d'un ange et d'un démon. L'ange lui dit de ne pas le manger. Et le démon, au contraire, l'incite à le faire. Eh bien, en fait, ce n'est pas d'un côté l'ange en gentil surmoi protecteur et le démon de l'autre en méchant ça pulsionnel. Parce que la pulsion, elle est déjà là. C'est le premier temps, c'est le moment où Milou voit l'os et veut le bouffer. L'ange et le démon se livrent bataille en donnant des ordres contraires à Milou, mais ce sont des ordres dans les deux cas. D'ailleurs, si on veut quand même les distinguer, l'ange serait du côté de l'idéal du moi, à la limite, s'il se met à développer des arguments, à amener Milou à voir un peu plus loin que la jouissance immédiate de ronger l'os, en lui disant qu'il en aura d'autres plus tard, que celui-là n'en vaut pas la peine, parce que ça le met en danger, lui et Tintin. Là où le démon répète seulement « mange-le ». Et si l'ange en reste seulement à un interdit bête et méchant, ça va donner des trucs du style « Milou, si tu manges cet os, tu n'es vraiment qu'une petite merde » et on est d'accord que c'est pas très sympa de se dire des trucs pareils.
Oui, je pense qu'on est d'accord, mais est-ce que c'est pas un peu représentatif de la manière dont on est avec soi ? On est rarement hyper tendre.
Bien sûr. Chez certaines personnes, le surmoi est très féroce et insultant. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter l'intériorité du surmoi ou son extériorité. L'intériorité, c'est donc le fait d'avoir intégré symboliquement les interdits et d'être encombré de cette petite voix qui me dit ce que je dois faire, que je peux essayer de rendre plus docile, avec qui je dialogue, même si c'est particulièrement pénible. Mais si je prends l'exemple de certains sujets psychotiques qui entendent des voix, qu'est-ce qu'on remarque de ces voix ? Eh bien souvent, ce sont des voix qui donnent des ordres, ce sont des voix qui insultent. Ces voix sont entendues depuis l'extérieur. Ce n'est pas se dire « je suis une merde » ou même se tutoyer dans sa tête « t'es vraiment con ma pauvre Manu ». Non, c'est une voix externe, une hallucination qui vocifère ou chuchote « sale merde, tutoie, brûle ton enfant » et autres joyeusetés.
J'imagine qu'on a autant de déclinaisons de ce surmoi que de sujets.
Bah, pour ma part, oui, je vais parler de moi, je sais que mon surmoi a tendance à être sacrément tyrannique, rabaissant, à m'emmener sur une pente un peu déchet de ma personne. Dans le passé, ça pouvait se traduire par une forme d'état larvaire sur mon canapé, du style « je ne suis capable de rien, autant rester affalé en position allongée ». Et puis je me débattais également avec une forme de jouissance d'indignité. En bref, je me laissais complètement aller. Et il y a 10 ans, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube et qu'elle a eu son petit succès assez rapidement, je me suis aperçue qu'on me reconnaissait dans la rue. Des personnes me disaient « bonjour, j'aime ce que tu fais », etc. Et au-delà du fait que c'était sympa pour l'estime de soi, je m'en suis servie comme sur moi. C'est-à-dire que ça m'a forcé à mieux me présenter au monde. Je faisais un peu plus attention à moi. J'évitais de pleurer des heures dans la rue en arpentant Paris. Oui, parce qu'avant, ça m'arrivait de faire ça, en mode drama queen émo dans ma jeunesse. Et donc, pendant quelques années, j'ai fait porter aux autres le fait de me forcer à devenir digne. Ce qui a, en fait, considérablement allégé mon surmoi, qui me répétait à longueur de journée à quel point j'étais une morveuse. Et puis, j'ai arrêté YouTube et la dignité est restée à peu près. Il y a peut-être un peu de façade dans cette dignité, mais elle n'est pas de l'ordre d'un « fake it until you make it ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression anglophone Nina qui dit de faire semblant jusqu'à ce que ça devienne naturel.
Oui, Mardi, je crois que je connais plutôt bien cette expression. Ça me fait aussi penser à tout le courant d'affirmation de soi où on est censé se dire dans le miroir « t'es super belle, t'es trop forte, t'es géniale ». Et apparemment, à force de se le dire, eh ben on se met à y croire.
Mais oui, en fait, les recettes toutes faites de certains courants de psychologie ne sont pas nulles en soi. Elles partent aussi d'expériences cliniques, très certainement. Mais elles se présentent comme des protocoles, comme des exercices à suivre. C'est totalement vidé de son sens singulier. Comme si, à partir de cette expérience avec YouTube et le fait que j'y ai trouvé une forme de dignité, je disais à des patients aujourd'hui, vous devriez trouver une activité qui vous redonne de l'estime. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, je ne crois pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer et se confronter au fait que ça ne fonctionne pas. Je ne prône pas l'immobilisme. Mais si l'idée, c'est de s'agiter de réponse en réponse en faisant toujours le constat que rien ne tient dans le temps, il y a sans doute à faire l'effort de se confronter à sa singularité. En fait, la grande différence entre la psychanalyse et d'autres courants psycho, c'est une affaire de temporalité. Dans le comportementalisme, on va se projeter dans le futur en modifiant des comportements avec l'espoir que ça va aller mieux. La psychanalyse, elle, est une discipline de l'après-coup. On se raconte dans le passé lointain et le passé proche, on se raconte et on rend compte à soi-même de ce qu'on fabrique. C'est une analyse et on fait le pari que d'analyser ce passé va avoir une incidence sur le présent et le futur, mais surtout sur la position qu'on occupe dans le monde, cela a une incidence sur notre énonciation.
Et bah merci beaucoup Mardi pour cet éclairage dû sur moi, mais aussi celui sur le moi et le ça. Je me risquerai pas à essayer de résumer tout ce que vous nous avez expliqué pendant cette mini-série, mais si d'aventure nos auditeurs et nos auditrices étaient curieux d'en savoir plus, Mardi, vous leur conseillerez quoi comme ouvrage ?
Eh bien, mon surmoi leur conseillerait de lire le moi et le ça de Freud, mais attention, c'est un petit peu chiant.
Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.
Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.